Chapitre 18. Nora resta muette d'horreur quand Mademoiselle Revelstoke lui contait les circonstances du dramatique événement. « Mort ? » dit-elle. « Est-ce possible ?»« Eh oui, le docteur prétend que c'est un simple suicide, mais pourquoi diable Monkford se serait-il suicidé ?» Et elle, si flegmatique en général, allait et venait nerveusement autour de la chambre. Crayley avait bien dit qu'il se croyait menacé depuis quelque temps, mais je ne voyais pas là que de l'imagination. Ah, c'était bien la peine que votre extraordinaire policier se trouvât là, joli policier, ma foi. Mais vous parliez de suicide, dit Nora. Eh non, c'est pas un suicide. Aucune arme n'a été trouvée près de lui. Le docteur est un imbécile. Alors, qui l'a tué? Ne posez pas d'aussi sottes questions, répondit brusquement Mademoiselle Revelstoke. Le malheureux est mort, c'est la seule chose certaine. Souhaitons seulement que sa banque soit solvable. Quant à votre monsieur Long, il ne jouit déjà pas d'une très grande enviable réputation à Scotland Yard, depuis ce que dit Henry, mais c'est un succès, va l'achever. Il y avait dans la voix de Mademoiselle Revelstoke une note de méchanceté satisfaite qui surprit Nora. Vous n'aimez pas, monsieur Long, murmura-t-elle. Cela lui semblait inconcevable qu'on pût ne pas éprouver de sympathie pour le policier. Oh, si je l'aime, écoutez, Nora. Il y a souvent dans la vie d'une femme certaines choses qu'elle préfère oublier. Il se trouve que votre Arnold Long m'a rappelé une erreur de jeunesse que je croyais oublier depuis longtemps. Oh, je ne vous le raconterai pas, vous. Penseriez que je suis folle. Cela eut lieu à Copenhague, alors que j'étais très jeune. Elle respira profondément. Mais que cela vous suffise. Fiston, non, je n'aime pas votre ami Long. La jeune fille garda le silence. Elle comprenait l'inutilité de défendre un homme qui avait certainement fait tout son devoir. Dites-moi, qu'est-ce que c'était que cette explosion dans votre chambre? Ben, j'ignorais tout de cet incident et je me rendais chez moi quand je trouvais M. Long essayant d'ouvrir ma porte. Une des femmes de chambre avait entendu des explosions. Il y avait un épais morceau de papier brûlant encore devant la cheminée. « Quelle sorte de papier ? Oh, je ne sais pas, Long l'a emporté. » La vieille dame n'insista pas. Elle ne semblait attacher qu'une faible importance à cette histoire d'explosion. Elle quitta Nora pour retrouver un ami dans le hall, laissant à la jeune fille le soin de préparer les valises. Celle-ci achevait à peine sa tâche lorsque Cravel vint lui faire ses doléances. Il semblait fort calme, tout en déplorant le départ de ses clients. C'est la ruine pour moi, enfin. J'espère que d'ici l'année prochaine, tout s'arrangera. Je vais d'ailleurs faire quelques changements, et la chambre tragique disparaîtra complètement. J'y ferai passer l'escalier. De toute évidence, il ne songeait qu'à son propre intérêt, et Nora ne put s'empêcher d'en être choquée. Lorsque Mademoiselle Revelstoke remonta, la jeune fille lui fit part de son opinion sur l'indifférence du directeur.
Oh, « Enfin, ma chère enfant, mais vous voudriez tout de même pas le voir pleurer à cause de Monkford. Il est probablement ruiné. pour la saison présente. Ah, au fait, je viens de voir votre policier. Il m'a demandé s'il pouvait vous parler. Quel renseignement espère-t-il obtenir de vous, je me le demande. En tout cas, vous m'excuserez de vous laisser seul avec lui, mais sa seule vue suffit à m'irriter. Quelques instants après, Arnold se fit annoncer. Il semblait très fatigué et toute la sympathie de la jeune fille alla vers lui. Contrairement à ses paroles précédentes, Mademoiselle Rebelstoke ne s'était pas retirée. Ce fut même elle qui engagea la conversation. Eh bien, monsieur Lang, avez-vous fait quelques découvertes? Non, dit-il, si ce n'est qu'il s'agit d'un meurtre. Mais comment cela? Le directeur m'a dit qu'il n'y avait absolument personne dans la chambre lorsque vous y êtes entré et que vous étiez la seule personne qui se trouva près de mon frère quand le coup a été tiré. Le jeune homme la regarda en souriant. Tiens, c'est vrai, j'étais là. Oh, je n'avais pas pensé à cela. Rassurez-vous, d'autres y auront pensé. Gravel m'a dit qu'il était au second étage lorsqu'il entendit la détonation. Il descendit rapidement et vous trouva près de la porte que vous tentiez d'ouvrir. Mais pourquoi cette porte était-elle fermée? Je ne sais pas, elle était fermée, voilà tout. Mademoiselle Revelstoke haussa les épaules en gardant aux lèvres un air de moquerie. Mais Cravel prétend que la porte ne pouvait avoir été fermée de l'intérieur, sinon il n'aurait pu l'ouvrir avec sa clé. Au fait, avez-vous trouvé la clé de la porte? La clé, bah, elle était dans la poche de Mangford. Les sourcils de Mademoiselle Revelstoke se levèrent interrogativement. C'est curieux. Gravel affirme qu'elle était au bureau, où elle est encore. Donc, si vous avez trouvé une clé dans la poche de Mangford, cette clé n'appartenait pas à l'hôtel. Mademoiselle Revelstoke fit alors Long tressaillir, tandis qu'un sourire éclairait son visage fatigué. Toute expression de fatigue avait disparu de ses yeux, qui s'éclairèrent subitement. Au fait, dit-il, je commence à comprendre au moins ceci, c'est que je me suis conduit comme un enfant. Son interlocutrice notait ce soudain enthousiasme qui ne semblait pas la satisfaire. Long reprenait. Je viens de trouver, grâce à vous, mademoiselle, la solution de cet étrange mystère. Et maintenant, je vais alléger ma conscience. Je viens de vous mentir. Je n'ai trouvé aucune clé, bien que l'ayant cherchée partout dans la chambre. Mais rien n'est plus délicieusement agréable que mentir à ceux qui. Il s'interrompit, bien que Mademoiselle Revelstoke l'écoutât avec beaucoup d'intérêt. Il se retourna vers Nora. J'allais vous poser quelques questions à propos de l'explosion dans votre chambre, mais c'est désormais inutile. Je n'ai plus à résoudre qu'un petit problème, à savoir comment l'homme qui tua Joshua Mangford s'échappa de la chambre. Les lèvres de Mademoiselle Revelstoke se plissaient ironiquement. Mais cela me semble en effet une question primordiale, dit-elle. Oui et non, dit Long, se parlant à lui-même. La question réellement importante à laquelle je ne peux pas encore répondre est la suivante. Pourquoi M. Henry, cet éminent avocat, s'est-il arrêté à la station de police de Stentova à 9h15 pour déclarer la perte d'une montre au bracelet qu'il avait laissée dans sa chambre. Les yeux de la vieille dame s'ouvrirent et le sourire quitta ses lèvres. Vous êtes presque aussi mystérieux que vos mystérieux terribles, dit-elle. Mais plus mystérieux encore, dit Long. Songez qu'au moment même où Henry se présentait à la police, on tuait Monkford. On ne pourrait imaginer un meilleur alibi, vous ne trouvez pas? Chapitre 19. Mademoiselle Revelstoke n'avait pas exagéré en disant que tous les clients de l'hôtel étaient en fuite. Long, qui avait été obligé de faire une courte apparition à Londres, ne trouva plus que 6 ou 7 personnes dans la grande salle à manger lorsqu'il revint. Cravel avait exigé que tous les panneaux de la chambre du meurtre fussent enlevés. 3 charpentiers étaient occupés à ce travail. Long examina les murs ainsi découverts. Il était parfaitement impossible que quelqu'un ait pu pénétrer dans la chambre autrement que par la porte. Le sergent Rouge, qui assistait le détective, était un gros homme d'âge moyen dont l'optimisme paraissait invulnérable. Il était persuadé que les problèmes les plus compliqués trouvent toujours leur solution. Long avait tiré de sa poche un morceau de papier à moitié consumé, le papier recueilli dans la chambre de Nora. « Qu'est-ce que c'est ?» dit Rouge curieusement. « Oh, tout ce qui reste d'un pétard. Vous pouvez en acheter un paquet pour 3 francs. »« Un pétard ?»« Oui, on l'a acheté par la fenêtre de Mademoiselle Sanders, et ceci uniquement pour m'attirer loin du cadavre de Monkford. »« Comme un imbécile, j'ai été pris au piège. » Et pendant ce temps-là, quelque chose se produisait. « Ah ah ! Le meurtrier s'échappa. » Mais le meurtrier ne pouvait pas s'échapper, puisqu'il n'était pas là, dit Long. Mais alors, comment a-t-il été tué? Oh, mais vous n'avez pas grande cervelle. Bon, écoutez, c'est très joli d'insinuer que je ne suis qu'un imbécile, mais enfin, il y a eu un homme tué dans une chambre fermée, et la seule personne trouvée près de cette chambre, c'était... Tiens, Rouge, vous aussi? Mais qui donc vous a raconté cette bourde? Le sergent Rouge se sentait assez mal à l'aise. La sueur lui venait au front, il bégaya... « Je voulais dire... »« Mais de qui êtes-vous cette phrase? Vous n'avez pas inventé cette magnifique théorie tout seul. »« Ben, c'est Cravel. Oui, il trouve ça curieux, votre présence près de la chambre de Monkford lorsqu'il a été tué. »« Allez me chercher, Cravel. J'ai 2 mots à lui dire. » Le directeur semblait résigné aux conséquences désastreuses pour lui de la tragédie. Il sourit même en regardant la chambre dévastée. Eh bien, monsieur Long, avez-vous trouvé une entrée secrète derrière ces panneaux? L'autre ne répondit pas. « Fermez la porte, » dit-il à son subordonné. Et quand cela fut fait, « Vous vous souvenez, cher monsieur, que lorsque vous êtes arrivé près de la porte de Monkford, après avoir entendu le coup de feu, vous m'avez trouvé essayant de l'ouvrir. » Une sorte d'appréhension passa dans les yeux de Cravel. « Oh, vous n'allez tout de même pas prendre au sérieux une vague réflexion que j'ai pu communiquer à Rouge. Non, j'ai simplement voulu dire que vous étiez la seule personne présente dans cette partie de la maison à l'instant du drame. Bon, j'ai rien voulu suggérer. Mais je me moque de ce que vous voulez ou vous ne voulez pas suggérer, interrompit Long. Mais j'entends vous poser quelques questions. Je vous ai demandé, vous vous en souvenez, si vous possédiez une clé de la porte. Cravel acquiesça. Il se tenait évidemment sur ses gardes toute son attention tendue. Vous vous rappelez aussi que vous êtes descendu et que vous êtes revenu avec un passe-partout. Oui, certainement. Et qui vous a donné ce passe? Le garçon d'étage. Qu'on aille le chercher, fit sèchement le policier, s'adressant à Rouge. Il resta silencieux jusqu'à l'apparition du valet de chambre. Vous avez un passe-partout pour cet étage? Lui demanda-t-il. Un coup d'œil fut échangé entre l'employé et son directeur. Oui, monsieur. Veuillez me le montrer. Le garçon tira lentement une clé de sa poche et l'attendit à Long. Celui-ci l'essaya dans la serrure sans aucun succès. Bon, ça va pas du tout, dit-il. C'est possible, dit le valet. Cette clé ne va pas à toutes les portes de cet étage. Allons, dit Long, qui marquait de l'impatience. Qui a le passe du troisième étage? Le garçon parut gêné. Monsieur, je ne sais pas, peut-être l'autre valet de chambre. Allez le chercher. Il congédia l'homme d'un signe de tête. Mais où voulez-vous en venir? Demanda alors Clavel. Où je veux en venir? Vous allez le savoir. Quand Monkford est monté à son appartement, après m'avoir demandé de le suivre, il est évident qu'il ne ferma pas sa porte. L'esprit le plus borné conclurait même qu'il ne pouvait pas la fermer parce qu'il n'avait pas de clé. Déduction logique. La porte a été fermée par quelqu'un d'autre, de l'intérieur ou de l'extérieur. J'ai entendu Monkford appeler le bureau au téléphone et j'ai la certitude qu'il téléphonait pour qu'on lui ouvrit. Je l'ai entendu dire « Qui a ?» Ce qui voulait signifier à coup sûr « Qui a fermé la porte ?» Cravel avait singulièrement pâli. Long poursuivit avec calme. J'ajoute que l'homme qui ferma la porte était vous, et que vous aviez le passe-partout dans votre poche, et que votre descente au bureau pour le chercher n'était qu'une manœuvre destinée à m'induire en erreur. Comme il achevait, Rouge revint l'informer que le valet de chambre qui était de service le soir du meurtre venait de partir en vacances. Ha ! Cela ne m'étonne pas, dit Long. Quant à Cravel, il paraissait à la fois hors de lui et terriblement anxieux. Mais oseriez-vous dire que c'est moi qui ai tué Monkford? Non, je prétends simplement que vous avez fermé la porte avant que Monkford ne fût tué, sachant exactement ce qui allait lui arriver. Mais moi je vous dis que c'est un mensonge, hurla le directeur. Mais j'étais pas derrière la porte. Pourquoi l'aurais-je fermée? Vous vous trompez grossièrement, voilà tout, et vos déductions imbéciles ont pour but que vous trouvez une excuse. L'oncle s'approcha de Gravel jusqu'à le toucher, et les yeux dans les yeux. Mes déductions d'imbécile, dit-il, vous conduiront à la potence, mon cher monsieur. Elles me suffisent en tout cas pour vous accuser du meurtre de Joshua Bamford. Oh, je pourrais vous arrêter tout de suite, mais je préfère attendre. Tôt ou tard, vous vous mettrez vous-même la corde au cou. Cette fois, Cravel avait été poussé à bout. Long n'eut que le temps de sauter de côté pour esquiver le coup effroyable qui lui était destiné. Vif comme l'éclair, il saisit le directeur à la nuque et le jeta au sol. Sa tête heurta le plancher. Tiens, gouailla le policier, j'ai trouvé le point sensible. L'homme se relevait lentement. Il tremblait de tous ses membres. Il bredouilla. Je porterai plainte, vous savez, à Scotland Yard. Sans blague. Bon Dieu, dit Rouche, en regardant son chef avec une admiration mêlée d'inquiétude. Ça va faire du joli s'il porte plainte. Pensez-vous? Arnold allait quitter la maison quand il vit Alice Cravel venir vers lui un papier à la main. Monsieur Long, vous n'avez pas payé votre note. Il examina le compte et fut pris d'un fou rire en voyant le total formidable. Envoyez cela à celui qui a tué Montfort, dit-il. N'oubliez pas de rappeler à votre charmant frère qu'un de ces jours il fera connaissance avec la prison de Shelford. L'ancien forçat Harry n'était guère de mes amis, mais je me suis juré de faire prendre son assassin. Les yeux de la jeune fille n'avaient pas même scié, mais il put y lire une expression de surprise lorsqu'il parla de Chelmsford. C'est au pénitencier de Wandsworth que le meurtrier de Monkford devait être pendu, selon toute vraisemblance. Sans doute la sœur de Cravel avait-elle complètement oublié le sort tragique du forçat Harry. Chapitre 20. Les bureaux de l'avocat Harry étaient situés à Lincoln's. Les fenêtres du jeune maître ouvraient sur une manière de petit jardin assez joliment ordonné. Debout derrière la vitre, il considérait les arbres verdoyants quand son clerc lui annonça l'inspecteur Long. Il le reçut avec une grande amabilité. Ah, j'imagine que c'est l'affaire Montford qui vous amène chez moi. Je vous attendais. Asseyez-vous. Et dites-moi en quoi je puis vous être utile. Long s'étonnait à part lui d'une réception aussi cordiale. Oh, j'irai droit au but, dit-il. Quelques heures avant qu'il fût assassiné, j'aperçus Monkford en grande conversation avec vous et Jackson Crayley. Vous vous souvenez? Vous vous promeniez sur la pelouse sous mes fenêtres. Or, c'est après cette promenade que Monkford marqua un changement radical d'attitude, notamment à mon égard. Il est indispensable que je connaisse le sujet de votre conversation. Pour rien de plus simple, je mettais Monkford au courant de votre attitude envers Mademoiselle Sanders et de l'envoi que lui aviez fait d'une bague de grande valeur. Arnold regarda avec ahurissement son interlocuteur qui poursuivait. Mountford était très amoureux de Nora, amoureux au point que l'après-midi qui précéda sa mort, il fit un testament en faveur de Miss Sanders et lui légua toute sa fortune. L'oncle se dressa comme mu par un ressort. Qu'il aille au diable, dit-il. Hein? Le jeune avocat haussait les épaules avec indifférence. Il précisait. Ce testament est entre mes mains. Crayley et moi-même assistâmes à sa rédaction. Et quels en sont les exécuteurs? Mademoiselle Sanders elle-même. J'ai naturellement fait tout ce qui était dans mon pouvoir pour éviter cela. J'aurais voulu que les biens fussent mis sous la sauvegarde de l'exécuteur public. Même Mountford tenait à son idée. Maintenant, des images défilaient dans l'esprit du policier avec clarté et précision. « Bire, murmura-t-il, il va falloir faire vite. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mercredi ?» Il avait gardé l'habitude enfantine de compter sur ses doigts. « Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours, soit 96 heures. » La question se pose ainsi. Puis-je rester éveillé pendant 96 heures? Puis, changeant de ton, où puis-je trouver Crayley? Ben, son club, suggéra Henri. C'est le club artistique et scientifique. Voilà un choix qui ne convient guère d'ailleurs, guère notre homme. Crayley n'est ni un savant ni un artiste, que je sache. Je le tiens plutôt pour un paresseux et un bavard. Ben vraiment, je ne me figurais pas Crayley si bavard que cela. Parions qu'il parlera, fit Long en souriant. Henri se mit à rire. Vous allez peut-être les mettre à la torture. Qu'espérez-vous donc en tirer? Bien, tout simplement, on l'aveu, que le testament de Mountford est un faux et que la signature est imitée. Oh, oh. Dire que j'avais toujours cru qu'un policier de votre genre n'existait que dans les mélodrames. Long sourit ironiquement. Mélodrame, vous ne croyez pas si bien dire. Les méchants seront punis et la vertu triomphera, vous verrez. Avez-vous jamais entendu parler de cet avocat qui empoisonna sa femme à Hereford? On l'a pendu. Ce qui prouve... Oh, rien, mais ne trouvez-vous pas que c'est un excellent précédent? Chapitre 21. Un ressort qui saute dans un mécanisme délicat, tel est l'effet que produisaient les événements de Hertz dans les plans de Mademoiselle Rivelstock. Sa saison était gâchée. D'habitude, elle restait d'un mois à l'hôtel, prolongeant ainsi de 3 semaines son séjour après les fêtes. De là, elle partait pour l'Écosse avant d'aller à Aix. Il lui fallut passer ces 3 semaines à Londres, que tous ses amis avaient déserté. Elle était de méchante humeur et Nora en savait quelque chose. La jeune fille avait l'esprit hanté par cette succession de drames. « Mais quelles absurdités !» disait sa maîtresse. « Scotland Yard a perdu la tête. Quant à votre avis, l'inspecteur... Il peut se vanter de savoir son métier. Dire qu'il avait été envoyé à Hertz pour protéger ce malheureux Mountford, c'est du propre. Tenez, écrivez au capitaine Martin et demandez si l'appartement que j'avais il y a 2 ans est libre. Faites-moi le plaisir d'oublier les terribles petites sottes. Maître Henri sonnait comme elle s'achevait. Il apportait des nouvelles qui stupéfièrent Miss Sanders. 2 millions de livres à moi, mais c'est impossible. Elle était toute pâle et tremblante. L'avocat affirmait : Oh, je crois bien, ma chère enfant, qu'il ne faille vous résigner à accepter la responsabilité de tous ces biens. Je voudrais même de me donner pouvoir d'agir pour vous et en votre nom. D'ailleurs, la succession se compose surtout d'argent liquide et vous pourrez disposer immédiatement de 1 200 000 livres. Les yeux noirs de Mademoiselle Revelstock étincelaient. Elle avait passé son bras autour des épaules de sa secrétaire et celle-ci éprouvait l'impression d'être saisie dans un étau. Enfin, la vieille dame desserra son étreinte et sa voix se fit étonnamment douce. « Allez vous étendre un instant chez vous, mon enfant. Cette nouvelle inattendue vous a bouleversé. Pendant ce temps, je vais voir avec Maître Henri quelle doit être votre attitude en présence de cette aubaine. » Nora obéit et se retira. Elle croyait rêver. Elle regardait sa chambre, le bureau, la petite table à écrire, le portrait de son père, la fenêtre entr'ouverte. Elle s'accouda un instant pour respirer mieux. En face, sur le trottoir, elle reconnut une silhouette, c'était Arnold Long. Il fit un signe en mettant un doigt sur sa bouche, puis de l'autre main, il lui montra 3 doigts. Cela signifiait évidemment 3 heures. Il était alors 12h30. Elle accepta d'un signe de tête. Mais où aurait lieu le rendez-vous? Long déplia un journal dont il lui montra la 4e page, occupé par une réclame qui ce matin-là remplissait tous les journaux. C'était l'annonce de la vente annuelle de Clock. Elle sourit pour montrer qu'elle avait compris, et l'inspecteur aussitôt s'éloigna. Quand Nora Sanders redescendit, elle trouva 2 actes préparés sur le bureau de Mademoiselle Revelstock. « Vous n'avez qu'à signer sur la ligne de point, » dit Maître Henri. « Cela se chante dans la dernière opérette américaine. » Le premier de ces actes était l'acceptation de l'héritage. Le deuxième donnait tout pouvoir à l'avocat. Mais est-il indispensable d'agir si vite? Laissez-moi le temps de reprendre mes esprits. Elle ne remarqua pas le regard échangé entre Mademoiselle Revelstock et l'homme de loi. Mon Dieu, dit la vieille fille, vous avez raison. Rien ne vous presse. Il sera temps ce soir de mettre ses papiers à la poste. » Et Mademoiselle Revelstock serra les documents dans son coffre-fort. « Mais maintenant, dit-elle gaiement, allons déjeuner. » Henri quitta la maison à 2h30 et Nora demanda la permission de sortir un peu pour s'éclaircir les idées. Sa maîtresse dirigea vers elle un regard rapide. « Allez, mais j'espère que vous ne rencontrerez pas votre éternelle longue. C'est la dernière personne à laquelle il faudrait faire part de votre affaire. » Chapitre 22. Cloche est le nom d'un très grand magasin. Nora errait depuis quelque temps parmi la foule quand un employé dont le visage était orné d'une immense moustache s'approcha d'elle en la saluant. « Ah, nous avons retrouvé votre sac, mademoiselle. Voulez-vous me suivre ?» Il la précédait déjà vers un petit bureau sur la porte duquel on lisait « Objet perdu ». Et là, arrachant sa moustache, Long s'excusa d'avoir dû user de ce moyen pour détourner les soupçons d'un suiveur éventuel. « Vous croyez qu'on me suit ?»« Non seulement j'en suis sûr, mais je pourrais vous dire le nom, l'adresse et le nombre de condamnations de l'individu. » Le bureau était vide, ils s'assirent. « Eh bien, Nora, vous connaissez votre bonne fortune, maintenant. »« Je vous avoue que je n'ose pas encore y croire. »« Il faut y croire. »« Le testament ne peut pas être discuté. »« Monkford l'a signé l'après-midi même de sa mort, le 1er août. » La date, tout à coup, fit image dans l'esprit de la jeune fille. Elle la revoyait inscrite sur le panneau de bois du fameux vieux bateau. Elle devint très pâle. « Oh oui, » fit pensivement Arnon, « la prophétie. » « Au fait, quel document Henri vous a-t-il demandé de signer ?»« Mais comment savez-vous cela ?» Ah, « Avez-vous signé quelque chose ?» Elle secoua la tête. « Non, pas encore, mais Maître Henri a rédigé deux papiers dont l'un l'autorise à agir en mon nom. »« Parfait, mais ne signez rien, vous comprenez ?»« Mais Maître Henri est un excellent avocat conseil, pourquoi ne pas le laisser faire ?» « Vous ne signerez rien, c'est clair, » dit le détective un peu brutalement. Il tira de sa poche un document qu'il déplia et étendit sur la table. « C'est moi qui vais mettre votre confiance à l'épreuve. Cette lettre est un pouvoir que je vous demande de conférer à Wilkins, Hardings et Bain, qui sont les avoués de mon père. Je leur ferai parvenir cet après-midi. Elle prit la plume qu'il lui tendait et, sans même lire, signa. « Mais que va dire Mademoiselle Revelstock ?» dit-elle anxieusement. « Eh bien, dites-lui, qu'ayant réfléchi, vous préférez vous confier aux avoués de votre père. » Un petit sac en cuir se trouvait sur la table. Il le lui avait mis entre les mains. « Voilà le sac que vous aviez perdu. Allez, maintenant sortez. Il ne faut pas faire trop attendre la personne qui vous guette derrière la porte. » Et comme elle paraissait hésitante, craintive, « Oh, rassurez-vous, je ne m'éloignerai guère de vous pendant quelque temps. » Puis, d'une voix que gagnait l'émotion, « Nora, je crains que vous n'ayez à traverser de mauvais moments, mais vous êtes de celles qui savent faire face aux événements. » N'oubliez pas qu'il y a 18 000 policiers à Londres, parmi lesquels un brave garçon qui ne vivra guère pendant quelques jours à cause de vous. Ayez donc du calme et du courage. De nouveau, la jeune fille se perdait dans la foule des acheteurs. Comme elle était prévenue, elle ne fut pas longue à remarquer un vieux monsieur à allure respectable, qui se retrouvait toujours sur ses pas. Mais ce fut sans inquiétude qu'elle rentra pour affronter la mauvaise humeur prévue de sa maîtresse. Elle trouva celle-ci au salon en train de coudre. Elle se hâta de dire « J'ai réfléchi, mademoiselle, j'ai décidé de confier mes intérêts à l'ancien avoué de mon père. » Mademoiselle Revelstock posa son travail sur ses genoux, le plia avec soin, enleva ses lunettes et alors seulement répondit.